With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous du jeudi, la bulle qui parle de nous, de soi, de ce qui va parfois moins bien. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux cheveux, ou plutôt à la perte des cheveux. Les hommes souffrent plus souvent de ce phénomène que les femmes. Et vous, est-ce que vous connaissez des héros chauves? Je me suis posé la question et j'ai trouvé difficilement Gru, le héros anti-héros de Moi moche et méchant, Wade Wilson, le défiguré totalement barré de Deadpool, ou encore Krillin, le meilleur ami de Son Goku dans Dragon Ball Z, mais qui a la particularité de mourir souvent. Bref, quand on est chauve, il n'y a pas d'image positive immédiatement accessible. Julien Dufresne-Lamy, auteur de romans, a commencé à perdre ses cheveux à l'âge de 22 ans, 10 ans de honte, de médicaments, avant de décider de partir à Istanbul, en Turquie, pour réaliser une opération de transplantation capillaire. Il raconte ce périple et mène une réflexion sur l'impact de l'alopécie sur la vie sociale et affective dans Anti-chute, publié chez Flammarion. Ma première question à Julien Dufresne-Lamy, votre livre sur les cheveux, c'est quoi exactement ?
En écrivant Anti-chute, j'avais pas envie de uniquement livrer un témoignage en fait sur la calvitie et l'opération capillaire. J'avais envie d'écrire un récit, un vrai récit sur les cheveux, sur la vie de mes cheveux. Mais je voulais surtout en fait montrer qu'on pouvait en fait raconter la vie d'un personnage, en l'occurrence moi-même, uniquement à travers la vie de ses cheveux. Et à travers eux, qu'on comprenne, on raconte l'apprentissage, l'intimité, l'enfance, la place occupée dans une famille, jusqu'au moment où, là, c'était mon cas, je réalise à 20 ans que je les perds. J'avais envie de montrer que cette perte qui m'a, en fait, fragilisé, c'était aussi, en fait, un excellent moyen et une excellente pulsion pour moi d'écrire sur la symbolique, en fait, du cheveu, sa place en littérature, dans les arts, aussi les cheveux des femmes, qu'on vient tondre ou raser depuis des siècles quand on les juge indignes ou coupables. Je voulais montrer, en fait, que nos vies, nos identités sont souvent à l'image de nos cheveux, qui disent beaucoup de nous-mêmes, quoi.
Et la perte, vous le dites, c'est tomber. Les cheveux qui tombent, c'est vieillir, faillir, faiblir, renoncer. Et à partir du moment où vous perdez les cheveux, donc à partir de 20 ans, vous commencez à avoir une vie empêchée avec des heures sous le sèche-cheveux le matin pour pouvoir camoufler là où ça commence à tomber, où ça commence à devenir un peu plus fin. Et c'est une vie de paria, vous dites. C'est dur.
J'ai un lexique effectivement dramatisant, puisque c'est mon travail aussi d'y mettre des symboles et d'y mettre de la charge. J'avais envie de montrer à travers ce lexique et à travers en fait cette lucidité que j'ai eue de moi-même, parce que tous ces rites, toutes ces mascarades, je les ai vécues et je n'ai rien travesti. Je voulais montrer en fait que la calvitie, elle a de nombreuses façons d'affecter la vie d'hommes et de jeunes hommes. De nombreuses études sociologiques le disent en fait sur l'estime de soi, sur l'état mental même pour certains, mais surtout sur l'image en fait avec laquelle on grandit, cette image qui change progressivement à cause de la chute de cheveux, sans qu'on puisse rien y faire d'ailleurs, et qui ne correspond plus en fait à l'idée que l'on s'est fait de soi-même. C'est là le début des angoisses pour de nombreux jeunes hommes atteints d'alopécie androgénétique, et c'est surtout un renoncement à la jeunesse. Quand on a 22 ans, qu'on réalise qu'on commence à perdre ses cheveux, 22 ans qui est un âge, il n'y a pas plus bel et jeune âge, pour autant, on est déjà en train de vieillir et ça peut être une violence et on comprend pourquoi puisqu'on vit quand même dans une société obsédée par le jeunisme et par les codes comme ça autour de la jeunesse.
Oui, parce qu'il n'y a pas de héros jeune qui soit chauve. On en parlait juste avant l'entretien. J'ai repéré que Gru de Moi moche et méchant qui était chauve. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de héros. Superman, il a plein de cheveux.
Et son ennemi, l'ennemi de Superman, est complètement chauve. Lex Luthor, je crois. Voilà, que la représentation des chauves, elle est toujours, quand elle n'est pas soit un objet de plaisanterie, de raillerie, puisqu'en fait, le chauve, c'est le bon copain sur lequel il est facile de taper, de railler gentiment.
Surtout s'il est petit et gros aussi. Hein.
Bah, c'est ça, en fait. C'est dès qu'on vient incarner en fait, quelque chose qui n'est pas au centre de nos... Je sais pas, de nos du code de beauté de nos représentations, c'est forcément une affaire de risée, de moquerie. Parce qu'en fait, la perte, quelle qu'elle soit dans nos sociétés, elle est toujours une affaire de moquerie. Elle n'est jamais une revendication positive, un empowerment. Et c'est, je crois, pour ça qu'on ne voit pas effectivement des super-héros chauves, des héros de romans chauves, des mannequins pour publicité, pour parfum, crème à raser chauve. Parce que malheureusement, c'est pas ce qu'on attend d'un homme encore dans nos sociétés virilistes, et de nos clichés masculinistes. Et, et souvent, je pense au sketch de Blanche Gardin dans un de ses derniers spectacles, où elle dit qu'un jour, elle croise un chauve dans la rue et qu'elle se surprend à l'envisager. Et elle se dit, c'est bizarre parce qu'il y a un an, je la cite, je regardais les chauves dans un mélange de compassion et d'amusement. Et pour Blanche Gardin, elle dit, c'est terrible, le chauve est une espèce de l'humanité entre l'aveugle et l'humain. Et ce sketch, très, très noir et très Blanche Gardinesque, montre quand même que le chauve reste un objet de plaisanterie facile quand l'homme chevelu n'est jamais moqué pour ses cheveux. Il est la tête d'ampoule, il est le crâne d'œuf. Ce ne sont que des plaisanteries anodines, évidemment. Mais elles en disent long, en fait, je pense, sur nos catégorisations. En fait, le fait d'être chauve, c'est ce que vous disiez sur le fait d'être soit de petite taille ou une personne grosse, c'est qu'en fait, ça devient un élément tout de suite qualifiant, différenciant, une identité en fait aux yeux des autres. D'où la source de raillerie, quoi. C'est ce que dit Blanche Gardin.
En avançant un peu dans cette autofiction, vous perdez vos cheveux et à un moment donné, quelques années plus tard, vous vous dites « c'est fini, j'y vais, je vais faire une opération de transplantation des cheveux ». Et vous dites à un moment « et j'aimerais me convaincre d'avoir fait cette opération » que je n'ai pas fait une transplantation pour obéir à une idéologie viriliste. Alors, je fais la parenthèse, une partie de la communauté gay a des diktats très forts en disant « n'accepte pas les Asiatiques, les chauves, les gros » et j'en oublie encore un autre.
Et les personnes efféminées.
Et les personnes efféminées. Alors, est-ce que vous avez résolu cette question? Est-ce que finalement, cette transplantation, vous l'avez fait ou pas pour obéir à une idéologie viriliste d'une partie de la communauté gay?
Non, je crois pas l'avoir fait pour obéir en fait à une pression extérieure, à une urgence que je ne ressentais qu'intérieurement. C'était vraiment et en fait c'est toute l'histoire depuis toujours du complexe. C'est une affaire très intime et pourtant très universelle. Ça nous touche et on ne sait pas pourquoi ça nous touche à ce point et c'est un fil comme ça à détricoter. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. En fait, c'était mon fil à moi à détricoter. C'est finalement comme faire une thérapie. Et ça montre aussi à quel point l'écriture, elle est magique parce qu'elle m'a permis d'avoir des réponses. Je ne crois pas avoir répondu à une forme d'idéologie comme ça, une forme d'injonction. Mais j'avais envie de montrer justement que cette injonction physique, évidemment, elle pèse beaucoup plus sur les femmes et qu'on vient toujours associer de façon injuste la chirurgie esthétique à la féminité, aux femmes. Se paraître à tout prix, cette obsession comme ça d'être bien représenté, alors que non, en fait, les hommes sont évidemment aussi concernés par cette injonction de l'allure, de la silhouette, et de dire publiquement, je suis un homme, j'ai fait une chirurgie esthétique, et j'en ai croisé des centaines dans cette clinique que j'ai choisie, peu importe nos genres, nos professions, nos milieux, en fait, on peut vouloir comme ça, vouloir se réparer, enfin, en tout cas, réparer un complexe, et que c'est joli, et que c'est louable même de penser à soi et de vouloir mieux vivre.
Plus d'un an après la transplantation, sur la photo de couverture du bouquin, on vous voit tenir vos cheveux. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos cheveux, c'est une affaire de réconciliation ou il y aura toujours un complexe plus ou moins enfoui ou en tout cas une attention particulière envers vos cheveux?
Je pense que c'est quelque chose que je suis en train de déconstruire. J'ai fait cette opération il y a un an et demi et j'ai vécu 10 ans justement avec cette calvitie, avec aussi cette idée-là de honte de moi-même que je me suis complètement inventée, avec la peur du regard des autres. Être chauve, c'est évidemment pas une fatalité, ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose qui peut être pris de façon très, très positive, très sereine, très belle. Mais quand cette acceptation elle n'est pas possible, je dis aussi qu'il existe des moyens d'y remédier et de se réinventer, enfin voilà, tout simplement. En tout cas, ce qui m'a permis de gagner en détachement vis-à-vis de moi-même et même en légèreté, je pense que c'est l'écriture. C'est le fait d'avoir écrit sur cette histoire pour la première fois, moi qui ai écrit normalement de la fiction, donc des choses complètement inventées. C'est terrifiant en fait d'écrire sur soi et de se mettre comme ça à nu. Et finalement, de l'avoir fait, ça m'a permis d'assumer beaucoup de choses à la fois sur mon identité, mes cheveux, mais aussi mon histoire de famille, mon orientation sexuelle et plein d'autres choses que je cite dans le livre.
Merci à Julien Dufresne-Lamy pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel. C'est le podcast de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous évaluer avec des petites étoiles parce qu'on aime beaucoup les petites étoiles. Vous pouvez aussi en parler évidemment autour de vous et nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.